Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
François Hollande attendu au Vatican avec en toile de fond le malaise des catholiques français et des dossiers internationaux urgents. C'est la huitième fois qu'un président de la Ve République est reçu au Vatican. Explication et analyse dans ce magazine. Le pape François invite les chrétiens à parcourir les routes numériques bondées d'humanité souvent blessées. Il l'affirme dans son message pour la 48e journée mondiale des communications sociales. Nous verrons que grâce au réseau, le message chrétien peut voyager jusqu'aux extrémité de la terre. L'avortement est une grave erreur, mais les mouvements pro-vie doivent aussi savoir montrer la miséricorde de Dieu. Comme à Paris dimanche dernier, la marche pour la vie a été très suivie à Washington. Cette année, les organisateurs avaient souhaité encourager les femmes à faire le choix de l'adoption, une décision héroïque pour les mères enceintes en situation difficile. Ce vendredi 24 janvier, le président François Hollande effectuera une visite officielle au Saint-Siège à partir de 10h30. Il sera reçu par le pape François, entretien en tête-à-tête, présentation de la délégation française et présentation des cadeaux. Puis vers 11h15, il aura un entretien avec le secrétaire d'État du Saint-Siège, Mgr Pietro Parolin. Depuis 1958, à l'exception de Georges Pompidou, tous les chefs d'État français sont venus au Vatican. Nicolas Sarkozy a été reçu à deux reprises. La visite de François Hollande intervient avec en toile de fond des dossiers internationaux tels que la guerre civile en Syrie et la crise centrafricaine, la protection des chrétiens d'Orient et la défense de l'environnement, des sujets suivis des deux côtés avec la plus grande attention. Elle intervient surtout alors que la politique sociétale du gouvernement, loi Taubira, fin de vie, procréation médicalement assistée, immigration, suscite incompréhension et frustration dans la sphère des catholiques, y compris parmi de nombreux électeurs de François Hollande. Le philosophe Guy Koch, spécialiste de la laïcité, revient sur ce climat de tension.
Il y a un malaise sociétal qui est dû largement à un rapport falsifié à la mémoire, à un rapport anémié à la mémoire. On nous change la société, nous ne sommes pas consultés, il n'y a pas de débat, la méthode est expéditive en général, c'est un rapport majorité-minorité au Parlement, on oublie même les méthodes qui avaient été utilisées excellentes pour la loi Leonetti sur la bioéthique, il y avait eu des débats, des états généraux, etc. Il y a un problème de méthode politique du gouvernement français sur les sujets de société. Il y a une sorte de mouvement en abîme. Les gens se demandent jusqu'où vont-ils aller? Enfin, on ne sait pas. Il n'y a pas de principe. Donc, il y a une certaine angoisse là. Elle est très, très importante. Les grands reculs du gouvernement actuel, du président Hollande, sur les problèmes, notamment financiers, semblent être compensés par un ralliement aux extrémismes sur le plan sociétal.
Est-ce que dans ce discours, on est dans un recyclage d'une certaine gauche anticléricale qui avait toujours existé, ou est-ce qu'on est dans quelque chose de fondamentalement nouveau ?
Dans le cas de Vincent Payon, c'est évident, mais ça ne résume pas l'orientation globale. La question est, une société démocratique laïque peut-elle subsister si elle fait tout pour se déraciner et en particulier pour refouler sa mémoire religieuse, la mémoire théologico-politique, etc. L'université française, l'ensemble de l'intelligentsia française est là dans une posture complètement suicidaire. Une société ne peut pas vivre sans une capacité de relation vivante à son passé. Est-on aujourd'hui dans la posture de devoir déraciner de plus en plus tout lien avec le passé? À cet égard, d'ailleurs, moi je me réjouis que François Hollande aille à Rome, parce que là, c'est un acte de lien avec une tradition. Cette tradition est honorable et il a totalement raison de faire ce voyage.
Si on remonte un peu dans l'histoire, est-ce qu'il y a eu de grosses différences entre la gauche et la droite au pouvoir en France dans leur relation avec le Saint-Siège ?
Il y a eu des différences un peu superficielles, parce que bien sûr on pourrait opposer le discours du Latran de Nicolas Sarkozy, mais surtout certaines déclarations un peu démagogiques au fond à l'égard d'une certaine opinion catholique. Ça c'est indiscutable. Mais globalement, à la fois la droite et la gauche quand même se retrouvent autour des principes de laïcité. Et dans une période récente, c'est surtout la remontée de la référence à la République et aux valeurs de la République. Il y a eu toute une période où ça s'était un peu oublié, de même d'ailleurs que la laïcité.
Mais Nicolas Sarkozy avait quand même une vision des relations avec les religions très particulière. Est-ce que les postures laïcistes du gouvernement sont une manière de s'en démarquer ?
Il y a quelque chose de l'ordre du retour de bâton, en ce sens que, autant Nicolas Sarkozy, au fond, essayait de se mettre dans les bonnes grâces des catholiques, autant, au fond, le Parti socialiste et le président qui en est issu ont été très imprudents. Je crois que le président Hollande serait avisé pour les futures décisions sur qui touchent à des problèmes sociétaux et qui sont très importants et où les clivages sont très profonds. Il serait bien avisé de revenir à un travail démocratique sur le mariage homosexuel. Ils ont procédé dans une méthode politique à l'emporte-pièce, disons. Cette consultation des religions, mais c'est même le type même de la politique du mépris. L'archevêque de Paris était bien patient parce que tous les témoignages disent le mépris avec lequel ceux qui n'étaient pas d'accord étaient traités. C'est le cas même, c'est le cœur même du scandale de la classe politique française.
Donc selon vous, il faut en revenir à un modèle de laïcité plus ouverte qui permette d'associer toutes les sensibilités religieuses dans les prises de décision.
Il y avait une petite tradition avec la loi Leonetti, parce que ça reste le grand modèle, d'essayer de dépasser les clivages droite-gauche, de trouver le compromis. Et là, je sens que, en fait, on ne cherche pas le compromis. Je pense que, d'un point de vue politique, la gauche devrait se méfier quand même de cette masse de Français qui, même n'étant pas pratiquants, garde un lien profond, un lien de cœur avec le christianisme.
Interrogé par Cyprien Viette, le philosophe Guy Coq, qui vient de publier « La foi, épreuve de la vie » aux éditions Parole et Silence. À l'occasion de la visite au Vatican du président François Hollande, plus de 100 000 jeunes catholiques de France ont signé une pétition adressée au pape François, faisant état de leur profond malaise sur différents sujets sociétaux. Dans cette lettre mise en ligne il y a quelques jours sur le site de pétition Citizen Go, les signataires font part de l'inquiétude grandissante de nombreux catholiques de France face à la promotion par le gouvernement d'atteintes majeures aux droits fondamentaux de la personne humaine. Les jeunes catholiques y dénoncent aussi une campagne médiatique de dénigrement d'une rare violence, ainsi que la multiplication des profanations d'églises. Les signataires demandent au Saint-Père de trouver les mots pour exprimer leur malaise sur l'ensemble des sujets évoqués. Le désamour des catholiques de France vis-à-vis du chef de l'État est devenu très profond. François Hollande entend quant à lui adresser un message fort de dialogue et d'attention, ont souligné ses conseillers. Et malgré un froid polaire, plusieurs milliers de militants anti-IVG ont défilé mercredi à Washington devant le Congrès et la Cour suprême pour l'annuelle Marche pour la vie à l'occasion du 41e anniversaire de la légalisation de l'avortement aux États-Unis. De très nombreux jeunes, religieux ou représentants politiques ont participé à cette manifestation qui avait reçu le soutien du pape François affiché sur Twitter. Au cours d'une veillée pour la vie au sanctuaire national de l'Immaculée Conception à Washington qui a précédé la Marche pour la vie, le cardinal O'Malley a réaffirmé que l'avortement était une grave erreur. Hélène Destombes.
Pas l'ombre d'un doute, l'avortement est un mal. L'archevêque de Boston a fustigé les pseudo-droits reproductifs et la pseudo-liberté de choix, des mots trompeurs qui, dit-il, cachent la réalité et la brutalité de l'avortement. Selon lui, l'Église a le devoir de rappeler cette vérité qui dérange, mais le cardinal O'Malley tient aussi à préciser que cela ne veut pas dire pour autant abandonner et pointer du doigt les femmes en difficulté qui choisissent d'avorter. Les mouvements pour la vie doivent, selon lui, savoir aussi montrer la miséricorde de Dieu aux femmes confrontées à une grossesse difficile. Juger et condamner, une telle attitude n'appartient pas à l'évangile de la vie, a-t-il martelé. En attendant, la mobilisation ne faiblit pas aux États-Unis. La neuvaine nationale de prière et de pénitence pour la vie se poursuivra jusqu'au 26 janvier. Samedi, sur la côte ouest, 50 000 personnes marcheront à nouveau pour la vie. Le président Barack Obama, lui, maintient sa position l'occasion, il a réaffirmé mercredi son soutien à la libéralisation de l'avortement et au droit de chaque femme de faire ses propres choix concernant son corps et sa santé. Fin mars, le président américain devrait rencontrer le pape François au Vatican.
La communication au service d'une culture authentique de la rencontre. Le message annuel du pape aux journalistes a été rendu public à la veille de la mémoire liturgique de Saint François de Sales, fondateur de l'ordre de la Visitation et patron de la presse catholique. Dans un monde où des divisions parfois très marquées persistent, où l'on constate l'écart scandaleux entre le luxe des plus riches et la misère des plus pauvres, les médias peuvent, selon le pape François, contribuer à nous faire sentir plus proches les uns des autres, en particulier l'Internet que le Saint-Père considère comme une bonne chose, un don de Dieu. Le message n'ignore pas les aspects problématiques et les limites réelles qui ne sauraient pourtant justifier un rejet des médias sociaux. Il nous rappelle plutôt que la communication est en définitive une conquête plus humaine que technologique. Le compte-rendu de Marie Duhamel.
Il y a bien sûr des aspects problématiques avec la communication en réseau. Le pape cite la vitesse de l'information. Elle dépasse notre capacité de réflexion. Et puis, il y a tant d'informations qu'on peut être désorienté, dit-il, et cela provoque un isolement. Même chose quand on ne lit parfois que ce qui répond à nos attentes, qu'on s'enferme dans une sphère d'information. Dès lors, la communication peut-elle se mettre au service de la rencontre? Il faut d'abord éviter les fourvoiements. Le message chrétien ne se réalise pas, dit le pape, avec le bombardement de messages religieux, ni avec des spots. On n'est pas là pour vendre ou manipuler les gens, ni enfin avec des trucages ou des effets spéciaux. Le rayonnement de notre message provient de notre capacité à nous faire proches de toute personne blessée. Le pape propose un paradigme, celui du bon samaritain. François prône la proximité, celui qui communique se fait proche. Mais attention, il ne s'agit pas de reconnaître l'autre comme son semblable, mais de notre capacité à nous faire semblable à l'autre. Calme, patience et écoute, car la personne ne s'exprime pleinement, non pas quand elle est tolérée, mais quand elle se sent vraiment accueillie. Dialoguer, c'est être convaincu que l'autre a quelque chose de bon à nous dire, à faire de la place à son point de vue, sans pour autant d'ailleurs renoncer à ses propres idées, à ses propres traditions. Pour le pape, seul celui qui communique en se mettant soi-même en jeu peut représenter un point de référence. Proximité et dialogue, ce sont donc les deux mots-clés du pape François pour que la communication contribue à façonner la vocation missionnaire de l'Église tout entière.
Ouvrir les portes des églises signifie donc les ouvrir aussi dans l'environnement numérique. Pour le souverain pontife, dialoguer ne signifie pas renoncer à ses propres idées et traditions, mais à la prétention qu'elles soient uniques et absolues. Il ajoute que l'implication personnelle est la racine même de la fiabilité d'un communicateur. Du coup, la neutralité des médias, écrit-il, n'est qu'apparente. Pour Mgr Claudio Maria Celli, président du Conseil pontifical pour les communications sociales, ce premier message du pape pour la Journée mondiale des communications sociales est authentiquement franciscain.
Et là-bas, vous retrouvez les perceptions, les dimensions profondes de son magistère. Et il fait une analyse avec une sagesse spirituelle sur la parabole du bon samaritain. Et il nous parle aujourd'hui de proximité. Et il souligne qu'une vraie communication doit être aussi proximité à l'homme et à la femme d'aujourd'hui. Et là sont des thèmes très chers au pape François. Et là-bas aussi, vous avez de nouveau que les lignes de perception ecclésiologique du message sont liées à ces discours au Brésil, aux évêques brésiliens et aux évêques de Selam. Il fait référence aussi au discours que le pape a tenu le septembre passé aux membres de l'Assemblée plénière du Conseil pontifical de communication sociale et après Evangelii Gaudium, son exhortation apostolique. Et là-bas, vous retrouvez exactement les lignes de coordination d'une réflexion profonde sur la communication. Proximité, authenticité et faire présent l'amour miséricordieux de Dieu.
Et il dit aussi, pas seulement près des autres, mais aussi ouvert à la vérité des autres.
Ah, exactement. Et là, le pape souligne cet dialogue respectueux avec la vérité des autres. Nous habitons aujourd'hui dans un contexte multiculturel et multireligieux. Alors les disciples de Jésus doivent savoir ce qu'il y a dans son cœur. Mais en même temps, il doit être capable de dialoguer avec respect avec les vérités des autres. Et le pape aussi, dans ce message, dit que la personne ne doit pas être seulement tolérée, mais l'autre est une richesse pour moi. Et dans ma recherche de la vérité, l'autre avec son chemin authentique, et dans cet dialogue respectueux, il peut me donner une richesse. Il peut contribuer à mon chemin dans la recherche de la vérité. Et je considère que là est le rôle fondamental aussi de la communication d'aujourd'hui.
Des propos recueillis par Philippe Aitchen du service anglais de Radio Vatican. Communiquer avec les autres, s'ouvrir à leur vérité tout en partageant la parole de Dieu, c'est ce que fait au quotidien Mgr Hervé Giraud, évêque de Soissons et précurseur sur les réseaux sociaux. Plus de 5000 personnes reçoivent tous les jours ses tweets homélies publiées sur Twitter en 140 caractères, c'est-à-dire une ligne et demie. Il propose un verset de l'évangile auquel il ajoute un petit commentaire. Il comprend pourquoi le pape, dans son message pour la Journée mondiale des communications sociale, a notamment mis en avant la proximité et la réciprocité.
Le pape Benoît XVI avait déjà dit que le dialogue grandit quand on prend au sérieux ceux qui ont des idées différentes des nôtres. Pour moi, ça c'est vraiment le point originel. Si on ne commence pas par écouter les idées des autres et même les idées différentes des nôtres, on ne pourra pas entrer dans un dialogue et dans la réciprocité. Et le mot-clé, à mon avis, aujourd'hui, c'est dialogue, réciprocité. Et on voit bien, partout où il n'y a pas cette réciprocité, ben c'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds. On est chacun à son étage, on peut parler jusqu'au bout du couloir, ça ne servira à rien, l'autre n'entendra pas et réciproquement. Donc je trouve très important cet aspect de prendre au sérieux ceux qui ont des idées différentes des nôtres. Le respect, je pense qu'il est très important d'avoir toujours une parole positive, c'est-à-dire évidemment jamais dans l'injure, jamais dans les slogans, les invectives et les non-respects. Même si nous, catholiques, parfois on peut être attaqué sur tel ou tel sujet de société, et c'est parfois assez dur, difficile, il ne faut, à mon avis, pas entrer dans ce terrain-là. Il ne faut pas donner prise au mal et pas donner prise à des injures ou à des colères, à des ressentiments. C'est difficile à faire parce que parfois on a vraiment envie de réagir, mais à l'image du Christ doux et humble de cœur, il n'ose pas la voix, il n'ose pas le ton. Et il continue à dire la vérité de son message d'amour pour les uns et pour les autres.
L'évêque de Soissons, Mgr Hervé Giraud, interrogé par Audrey Aradondi. Le Saint-Siège a exposé sa position sur la crise syrienne et le processus de paix israélo-palestinien devant le Conseil de sécurité de l'ONU qui consacrait une session au Moyen-Orient. L'observateur permanent, Mgr Chalikat, a souligné que les décisions courageuses étaient rarement faciles et qu'elles pouvaient être politiquement impopulaires. Selon lui, la paix israélo-palestinienne est une nécessité. La délégation du Saint-Siège salue donc la reprise des tractations. Quant à la Syrie, le Vatican demande un cessez-le-feu immédiat et exhorte la communauté internationale à soutenir les victimes et la reconstruction de ce pays. Il estime par ailleurs qu'il faudra favoriser de nouvelles formes de participation et de représentation politique de telle sorte que tous les Syriens puissent faire entendre leur voix. Mgr Chalikat a par ailleurs insisté sur la situation précaire des chrétiens du Moyen-Orient menacés par les fondamentalismes. Le Saint-Siège est prêt à soutenir tous les efforts visant à favoriser la compréhension et la confiance après des années de violence, de vengeance et de récrimination. Enfin, le Saint-Siège salue les progrès accomplis en ce qui concerne le programme nucléaire iranien. La nouvelle constitution égyptienne a été accueillie avec satisfaction par les évêques coptes catholiques. Selon eux, elle garantit les droits fondamentaux de tous les Égyptiens sans distinction. Les droits des chrétiens y sont bien représentés. Le préambule exprime respect et appréciation pour la religion chrétienne. De plus, la nouvelle constitution impose au Parlement d'adopter rapidement une loi réglementant la construction de nouvelles églises, jusqu'ici soumises à de lourds processus bureaucratiques. Je vous signale avant de terminer qu'un livre contenant les notes personnelles et inédites de Jean-Paul II sera publié le 5 février en Pologne. Dans son testament, Jean-Paul II avait demandé de brûler ses notes personnelles et ses correspondances. Beaucoup de choses ont été détruites, mais son ancien secrétaire, le cardinal Dziwisz, aujourd'hui archevêque de Cracovie, a décidé de préserver certaines d'entre elles. Des notes de souvenirs contenues dans deux carnets seront donc publiées dans un livre intitulé « Je suis dans les mains de Dieu ». Selon l'archevêque de Cracovie, ce grand pape révèle un fragment de son âme, de sa spiritualité et de sa rencontre avec Dieu, la contemplation et la dévotion. Jean-Paul II, je vous le rappelle, sera canonisé le 27 avril, en même temps que son prédécesseur, Jean XXIII. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican, en français.